Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Se dépasser par la course à pied, oui, c'est physique, certes, mais pas seulement. Il y a aussi un grand côté moral et psychologique. On y va pour les détails avec ma femme d'aujourd'hui.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Fathia Benhamou, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Marhaba bik, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chbarak lalla Fathia.
Alhamdoulilah, merci beaucoup Yasmine pour cette belle invitation
et
cette opportunité de partager mon aventure avec vous.
Avec grand plaisir, c'est notre
merci.
Espace de discussion. Voilà, lalla Fathia, vous êtes ce qu'on appelle une championne olympique, yak.
Ah oui, plus ou moins.
Oui. Allez, je moins. Rien plus. Qu'est-ce que
je
moins? Oui. Audina, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes une marathonienne olympique.
Oui.
C'est quoi la différence?
Exceptionnelle.
C'est quoi la différence entre marathonienne habituelle et olympique? Allez, je n'allais pas olympique.
Là, c'est une première dans l'histoire des Jeux olympiques. Qu'un marathon grand public est organisé pour donner l'occasion à des athlètes amateurs comme moi d'emprunter le même parcours que le marathon olympique. Donc, permettant à ces athlètes d'emboîter le pas à des athlètes connus, exceptionnels, et plus ou moins se mettre dans la peau des athlètes olympiques et pouvoir parcourir un parcours qui est classé le plus dur de l'histoire des Jeux olympiques.
Hada l'Ijrito, à Paris.
Voilà, oui.
Pourquoi il est dur ?
Elle est dure d'abord par son parcours très exigeant. Donc, il y a beaucoup de montées.
D'accord.
Parfois, il y a des murs. Ce n'est pas des côtes, il y a des murs.
Okay.
Et surtout, à la fin de la course, où la fatigue s'installe. Il y a aussi le départ nocturne. Donc, le premier départ, c'était à 9h du soir.
Uh-huh.
Et le dernier départ, parce qu'il y avait beaucoup de sas, c'est à 10h30 de soir. Donc, Ça a rendu ce marathon exceptionnel.
Donc, vous avez couru la nuit, en fait?
Oui, on a couru la nuit. Il y a aussi même le comment participer à ce marathon qui était le plus dur. Parce que ce n'est pas comme les autres marathons, tu t'inscris, tu payes ton dossard et voilà. Là, les organisateurs, ils ont lancé des challenges dans le monde entier.
Donc, d'accord, après il y a un tirage au sort.
Voilà, après un tirage au sort, et parfois tu as avec plus de 200 000 participants dans le monde qui cherchent toujours cette opportunité de gagner un dossard. Donc, c'était pas vraiment facile.
Et Fahli Gilti, déjà le fait de décrocher son dossard, c'est une grande, c'est un grand exploit en fait.
Exactement, oui.
Ok, et vous étiez la seule Marocaine dans ce marathon?
À ma connaissance, oui.
Donc, quand on arrive à ce degré-là de compétition, est-ce que c'est pour gagner ou c'est pour se prouver quelque chose à soi en tant que femme?
Non, c'était pas vraiment pour gagner parce que chaque marathon, c'est vraiment une occasion de dépassement de soi et de savoir ce qu'on est capable de faire. Gagner, c'est loin d'être mon objectif parce que lorsqu'on est avec plus de 40 000 personnes, et c'était le cas dans les autres marathons, l'objectif, c'est autre chose. C'est de réaliser un objectif déjà établi au début, c'est-à-dire soit pour un record personnel, soit totalement pour dire « voilà, je suis capable de faire ça ». Et de voir là où sont mes limites et de les pousser. Donc, c'est une autre histoire que de gagner.
Et vous avez gagné?
Oui, pour moi, j'ai gagné.
En plus, vous avez gagné quoi, justement?
Non, j'étais pas la première,
oui.
Mais la dernière. J'ai fini mon marathon avec l'objectif que j'ai fixé au début avec mon coach sportif. C'était de finir avec, en sentant satisfait et de dire voilà, j'ai fait tout ce qu'il faut pour rendre cette aventure la plus belle, parce que c'est pas quelque chose qui se présente tout le temps dans notre vie. C'est une opportunité unique. Et mon objectif, c'était de faire ce qu'il faut faire.
Alors, quand on rajoute justement la qualification d'Olympique à son marathon, les autres, ils ont quel goût, ceux qui vont venir ?
Pour les autres marathons, là, il y a toujours un défi. Il y a toujours la patience d'aller courir dans les autres villes, de tester d'autres parcours, d'autres climats. C'était toujours ma passion. Donc, je dis pas c'est le dernier où il y aura pas quelque chose de plus agréable. Non, peut-être il y aura d'autres choses. Je sais pas.
Inch'Allah. On parle de ce côté de vous. Vous, dans la vraie vie, comme on dit, vous êtes docteur en chimie, c'est ça ?
Je suis docteur en biotechnologie alimentaire.
Ok, ça veut dire quoi exactement ?
Donc là, c'est toute la conservation des produits alimentaires, les processus de fabrication, c'est de faire des recherches c'est-à-dire les meilleures méthodes et les nouvelles méthodes pour la conservation. Voilà, donc c'était ça mon domaine de recherche. Donc je cherche toujours des conservateurs. Des nouveaux conservateurs bio, sans produits chimiques, sans sel, etc. Donc, c'était ça ma...
C'est ça votre travail au quotidien ?
Mon travail, je suis responsable qualité et directrice d'un laboratoire de recherche et développement.
Ok. Et avec tout ça, vous trouvez le temps de vous préparer à des marathons pareils ?
Oui, c'est pas facile, mais la clé, c'est dans l'organisation. Donc là, entre le travail et les responsabilités professionnelles, et surtout avec les entraînements intensifs, parce que pour préparer un marathon, c'est presque 5 jours par semaine. Donc là, il faut beaucoup de discipline, pas uniquement pour les entraînements, mais aussi pour la nutrition et pour le repos. Mais j'ai dit toujours, si on a l'amour de faire quelque chose, on trouve toujours des solutions. C'est pas impossible. Voilà.
Alors, cet amour pour la course, est-ce que c'est l'amour pour la course ou le dépassement de soi ? Est-ce que c'est le fait de courir ? Est-ce que vous aimez ça, courir ?
Là, la course et surtout les marathons, c'est une occasion pour d'abord pour pratiquer ton sport. Et aussi surtout pour le dépassement de soi et de sentir ce défi physique et mental. Parce qu'un marathon, ce n'est pas uniquement les entraînements physiques ou la préparation physique, mais ça demande beaucoup de mental. Donc, pour moi, c'est un défi pour ces deux paramètres. C'est d'abord de voir qu'est-ce que je suis capable de faire et combien je peux, c'est-à-dire surmonter ces difficultés ou ces moments difficiles qu'on sent au moment de la course. Et ça reflète aussi, c'est-à-dire il a un effet sur nos comportements dans le quotidien, c'est-à-dire pour le travail, pour les difficultés de la vie. Donc pour moi, le marathon, c'est une école où on apprend beaucoup de choses.
Vous êtes arrivée comment à cette école ?
Là, la première fois, c'était de participer à une course de 10 kilomètres. Et je pense la première fois en 2014.
Avant ça, vous étiez sportive ou pas ?
Oui, avant ça, j'étais sportive, mais je faisais plus de randonnée que de la course à pied. Okay. Donc la course à pied, c'était la course de dimanche ou parfois que la marche. Mais ma première compétition était en 2014.
Okay.
Voilà. Et après les 10 kilomètres, donc j'ai dit, ah oui, puisque j'ai pu faire les 10 kilomètres, peut-être je suis capable de faire plus. Et ça continue comme ça. À chaque fois, tu as besoin de tester, de voir, de se fixer d'autres défis.
Ces défis-là, justement, est-ce qu'on ne se dit pas parfois, c'est le moment de me poser. Courir, c'est aller à la recherche de quelque chose. S'entraîner, il y a le travail, il y a finalement aussi ces voyages pour recourir ces marathons à travers le monde. La course rythme votre vie, j'ai l'impression.
Oui. Avec plusieurs expériences et avec, à chaque fois, il y a de nouvelles sensations et chaque fois, il y a des... Là, ça devient comme un... C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas en dépasser. Donc, t'as toujours besoin de vivre ces émotions parce que c'est extraordinaire. Le moment où tu finis, le moment où tu vois que t'as pu réaliser des choses que avant tu dis que c'est impossible, que c'est la science-fiction. Donc t'as toujours besoin de sentir cette sensation d'accomplissement de soi, dépassement de soi.
Donc en fait, c'est pas la course en soi, mais c'est la fin que vous allez rechercher, avec la sensation de la fin. En fait.
Exactement. Et en même temps...
C'est une drogue, en fait. C'est comme une drogue.
À un moment donné, ça peut devenir une drogue, mais il faut gérer. Il faut pas se laisser aller parce que là, il faut trouver toujours l'équilibre entre pratiquer le sport, réaliser tes objectifs en sport, mais de ne pas tomber dans cette histoire de drogue ou de la dépendance totale. Là, il faut toujours chercher l'équilibre.
Est-ce que parfois votre famille vous en veut parfois de ramener toujours la course au quotidien, dans leur quotidien à eux, dans leur vie à eux?
Au début, oui, mais maintenant, ils ont pris l'habitude et ils savent que c'est quelque chose qui me rend heureux, équilibré. Et là, ils ont fini par comprendre. Voilà. En plus, là, si je dis pour ma mère, par exemple, il ne sait pas que je fais ce genre de course. Et non, il ne sera pas du tout d'accord parce que là, il ne peut pas imaginer courir 42 kilomètres. Pour elle, c'est pas... Donc, là, on...
Donc, voilà, votre mère, elle ne sait pas que vous courez ces marathons-là?
Là, il sait que je cours, mais il ne sait pas les détails. Parce que une femme de 90 ans, donc, de comprendre que je cours, que je fais des marathons de 42 kilomètres, que je cours 5 fois par semaine. Donc, pour elle, c'est difficile à
concevoir.
À concevoir, ouais, exactement. Ouais, ouais. Mais,
vous auriez aimé partager ça avec elle? Qu'elle soit fière de vous pour ça?
Non, j'essaie de partager ça, mais sans entrer trop dans les détails. Donc, je cours, j'ai une médaille, mais j'explique pas trop comment.
Oui. J'ai l'impression d'entendre une adolescente parler de sa mère.
Oui, parce que la relation avec la mère, ça reste toujours une relation enfant-parent, parce que là, je ne serais pas trop contente si je comprends que ma mère, il va me dire « Attention, ma fille, il ne faut pas courir 42 kilomètres », et à chaque fois qu'il me voit, il me dit « Fais attention à ta santé, il faut pas... » donc il ne sera pas contente du tout. Donc, ça ne va pas me donner beaucoup de... C'est-à-dire beaucoup de motivation. Donc, à un moment donné, il faut trouver l'équilibre.
Oui, mais c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression d'entendre une adolescente, dans le sens où, est-ce qu'on peut s'affirmer devant ses parents? Est-ce qu'on peut avoir une relation d'adulte à adulte avec ses parents? C'est une question que je vous pose, mais que je pose à toute notre communauté. Est-ce qu'on peut avoir cette relation d'adulte à adulte? Ou notre décision prend toute sa place et on l'assume, voilà, d'adulte à adulte.
Oui, là, pour certaines choses, oui. Mais parfois, on préfère d'aller et de s'adapter c'est-à-dire avec les attitudes, avec comment nos parents, ils voient les choses. C'est pas qu'on fait des choses et leur dire, voilà, c'est comme ça. Donc là, on essaye de faire les choses qu'on voit convenables. Et bien sûr, il faut qu'ils qu'on trouve c'est-à-dire les meilleures manières pour rendre tout le monde content, c'est-à-dire d'entrer pas dans les défis et des remarques, c'est-à-dire de faciliter les choses, parce que parfois les parents, ils savent pas cette possibilité de voir les choses comme on les voit nous. Donc là, peut-être on a abordé cette histoire de relation homme-femme, mais moi, mon âge, c'est-à-dire je demande pas l'autorisation ou l'accord, mais c'est juste pour rendre tout le monde.
Comme on dit.
Ils n'entrent pas trop dans les détails qui sont parfois, ils ne vont pas comprendre. Tu vas demander à une femme qui a 80 ans et tu lui dis, voilà, je vais courir 42 kilomètres, il ne va pas le comprendre.
Ouais.
C'est sûr.
Donc, vous avez essayé, voilà. Peut-être qu'elle va le comprendre. Vous avez essayé, justement?
J'ai essayé de dire que j'ai couru 10 kilomètres. Il m'a demandé c'est combien 10 kilomètres.
Alors, justement, Fatihia, vous avez des enfants?
Non.
Non, pas d'enfants?
Pas d'enfants.
C'est un choix?
Adel Mektab, tout simplement. Parce que ça, on ne peut pas dire, on ne peut pas parler du choix, c'est pas encore le temps.
Oui. Pourquoi je vous pose la question? Parce que je lisais dernièrement un article où on disait, à travers des interviews avec des couples marocains, avec des jeunes femmes, des hommes, que certes, de plus en plus ne veulent pas avoir d'enfants. C'est un choix de ne pas avoir un enfant. Alors qu'avant, la question ne se posait pas. On est une femme, on est un homme, on se marie, on s'unit, eh bien, on fait des enfants. Là, les mentalités sont en train de changer. On se marie, mais on n'a pas forcément envie d'avoir d'enfants.
Pour moi, ce que je peux dire, c'est ça reste toujours le choix de chacun. Mais si on parle de la loi naturelle de la vie, donc là, normalement, c'est pour que la vie continue. Si tout le monde pense comme ça, à un moment donné, la vie va s'arrêter. Donc, ça reste toujours un choix des gens. Peut-être ils ont leur propre raison de faire ce choix-là. Mais pour moi, même si j'ai pas des enfants, mais je pense que avoir un enfant, c'est quelque chose de très agréable dans la vie. Donc, je peux pas parler à la place de ces gens qui ont pris ce choix-là. Mais si c'est moi, je vais pas prendre ce choix-là. On est contre la nature, on est contre la loi de la nature,
oui.
À mon avis.
Oui.
Mais chacun ses raisons.
Oui. Peut-être pour finir, justement, si vous aviez cette responsabilité-là des enfants, vous pensez que vous allez pouvoir être aussi libre dans votre tête de pouvoir vous organiser entre le boulot et la course à pied?
Oui, oui, oui. Parce que là, parfois, on met des... comment dire, à barre pour ne pas faire la chose. On dit, voilà, nous avons
des
enfants,
excuses.
Je vais pas faire... On va, voilà, trouver des excuses. Mais mon expérience, surtout, dans ce marathon de Jeux Olympiques, parce qu'il y avait une communauté des athlètes dans le monde entier qui sont formés pour participer à ces challenges. Et quand tu vois les expériences des gens et ces femmes, comment ils sont... très occupés, ils ont des enfants, parfois même il y a des femmes qui sont handicapées. Donc là, ils trouvent le temps et pour faire les challenges, ils participent. Et ils sont venus de la Chine, de je ne sais pas d'où, dans les quatre coins du monde pour être là. Et là, tu dis, mais là, je n'ai pas d'excuses. Ce n'est pas que je n'ai pas des enfants, mais moi, je connais des femmes qui ont des enfants, qui ont une grande responsabilité professionnelle, et ils trouvent le temps pour faire ce qu'ils ont besoin de faire.
Oui.
Parce que là, le sport, comme tu sais, le sport, ce n'est pas hiwaya, c'est pas...
Oui, c'est pas un luxe, en fait, c'est la vie.
Voilà, c'est pas uniquement le marathon. Il suffit de bouger, il suffit de faire de ce qu'on aime faire. Mais de ne pas trouver à chaque fois des excuses.
Oui. Votre mentalité à vous, Fethia, a évolué à travers les années, entre les premiers jours où vous avez commencé à courir dehors et aujourd'hui. Avant, courir dehors, c'était pas commun en fait.
Oui. Maintenant, lorsqu'on sort, là, il y a beaucoup de gens qui courent. Ça montre que la ville, elle est en bonne santé. Quand tu es à la forêt, tu vois les femmes, surtout les femmes, elles sont en train de marcher, de courir. Tu dis, alhamdoulillah, la ville est en bonne santé. Parce que là, c'est une culture, c'est pas uniquement le sport, c'est une culture. C'est une culture à faire connaître aux enfants, aux gens. Parce que quand tu vois, par exemple, au marathon, le nombre des spectateurs au cours des 42 km, donc là, tu vois des enfants, les gens, ils ramènent leurs enfants pour justement voir que le sport, c'est quelque chose d'agréable et qu'il faut penser un jour de participer. Donc là, vraiment, la mentalité a beaucoup changé. Moi, je me rappelle, quand je suis peut-être même les regards des gens, que tu vois, ils sont curieux. Il y a une femme qui fait la course à pied, mais maintenant, non. Le nombre de femmes, il est aussi important que les hommes qui pratiquent le sport. Oui, c'est bien.
Alors, Fathia, merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
Merci à toi, Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.